Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment lutter efficacement contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre? On en parle aujourd'hui avec Madame Yeyet Elonga. Elle est initiatrice et présidente du conseil d'administration de Femina Asbel, qui veut dire fille engagée et mobilisée pour son intégration dans la nation. Madame Yeyet, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission. Elle n'est pas seule dans ce studio. Nous avons également dans ce studio monsieur Bienvenu Yumbi, qui est cofondateur de Femina Asbel. Monsieur Bienvenu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, des questions et préoccupations. Appelez au 089 55 98 337. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler du thème du mois de la femme. Comment investir plus en faveur de femmes pour accélérer les rythmes? Ce sera avec Madame Malika Moukoubou, entrepreneur et présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme. Voilà ainsi présenté les menus d'Okapi Service aujourd'hui. Toute l'équipe est en place. Grâce Mbouezolo assure la coordination et la réalisation de cette émission. Dieudonné Nyangas à la mise en onde au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Bien, en RDC, les jeunes filles sont confrontées à des sérieux problèmes de santé sexuelle et reproductive. On peut citer les grossesses non désirées, le VIH-SIDA, les infections sexuellement transmissibles et les cas de violences sexuelles. Elles sont victimes de mariages précoces, des viols et autres abus sexuels en temps de paix ou des guerres. En outre, elles n'ont pas toujours de bonnes informations et ne connaissent pas leurs droits face aux problèmes qui les touchent. Alors comment lutter efficacement contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser, sensibiliser beaucoup plus les femmes et particulièrement les jeunes filles par rapport aux problèmes qui les concernent? Il y a une structure qui s'appelle Femina Asbel qui développe un projet dans ce sens-là, et nous recevons aujourd'hui Madame Yeyet Elonga, qui est l'initiatrice et présidente du conseil d'administration de Femina Asbel, qui veut dire fille engagée, mobilisée pour son intégration dans la nation. Madame Yeyet Elonga, ravie de vous retrouver dans cette émission. Alors, avant d'aller plus loin, parlez-nous de Femina Asbel.
Alors, merci Jody. Je crois que c'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver dans ces studios. Femina Asbel est née d'abord sur un constat. Le constat, c'est que les femmes et les filles sont majoritaires par rapport aux hommes. Mais en fait, il y a une situation qui fait qu'elles sont toujours victimes de certaines injustices, certaines violences. Mmh. Et c'est dans ce sens que j'ai pensé à créer Femina. Et nous travaillons principalement dans les écoles. nous sensibilisons les dans les écoles, les filles, majoritairement, mais nous ne pouvons pas laisser tomber les garçons. Parce qu'il arrive des fois même où les garçons ou les hommes sont victimes des violences sexuelles basées sur le genre. Donc là, nous nous sensibilisons dans les écoles. Nous avons plusieurs thématiques. Nous avons le VIH-SIDA, nous avons les violences sexuelles basées sur le genre, nous avons la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, nous faisons du mentorat et nous faisons également la promotion des droits humains. Donc là, nous voulons vraiment que la jeune fille, parce que c'est vraiment elle notre cible en fait, l'adolescente et la jeune fille soient vraiment renforcées en capacité. C'est comme ça que nous faisons ces sensibilisations. Et quand nous faisons le mentorat, nous, nous invitons une personne, une dame qui a étudié dans l'école. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sensibilisons dans les écoles. Oui. Donc le mentorat, quand nous le faisons, ce n'est pas nous qui parlons directement aux filles. Donc nous invitons une dame qui a étudié, qui est sortie de cette école.
De cette école-là.
Qui vient
qui
leur parler.
Occupe peut-être des fonctions
qui occupe
aujourd'hui,
des postes, voilà. Qui occupe un bon poste ou qui occupe un poste qui est occupé, à venir parler aux plus jeunes. Parce que moi, si je leur dis ce que la dame dit, ça n'a pas le même sens. Elles ne le prennent pas de la même manière.
Oui.
Parce que nous entrons par la grande porte, nous rencontrons les autorités, les provèdes, les responsables de l'école. Et quand nous disons que nous avons invité telle personne, ils disent, mais tiens, elle a étudié ici. Nous disons, voilà, c'est pour ça que nous voulons qu'elle vienne parler à ses jeunes sœurs.
Et le message passe très bien.
Le message passe à merveille. Le message passe à merveille parce que le fait qu'elle soit sortie de cette école, c'est vraiment, ce sont les entrailles de l'école. Et donc, le fait d'être sortie de la même école et d'être quelque part dans la vie aujourd'hui, ça fait que les filles sont waouh, j'aimerais être comme elle.
Comme elle.
Les jeunes
les prennent
ont besoin
comme
de
modèle.
Repères. Voilà. Elles ont des repères parce que une personne qui n'a pas de repères se perd en fait.
Ah, ça c'est bien dit. Bien, monsieur, bienvenue Yumbi. Alors, quel état des lieux vous faites aujourd'hui des violences sexuelles et celles basées sur le genre?
Merci beaucoup, monsieur Jordi. L'état des lieux, je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment, vraiment déplorable. Parce que quand nous voyons, nous considérons la situation des vulnérabilités des jeunes filles, des adolescents, des adolescentes, il se trouve que il y a surtout dans le milieu scolaire, il se trouve que des jeunes garçons, n'est-ce pas, arrivent à abuser de leurs collègues élèves et d'autres sont même exposés parce que vous verrez une petite fille de 13-14 ans qui a la morphologie un peu plus développée et vous trouverez que un enseignant commence
à courir derrière
et voilà, ça expose la jeune fille. Alors la situation, l'état des lieux est tout simplement déplorable. C'est pourquoi nous sommes là pour la sensibilisation, n'est-ce pas, à renforcer la capacité à ces jeunes filles là de pouvoir résister à toutes ces tentations là et à aussi équiper ces jeunes garçons-là qui, eux, courent derrière les jeunes filles. Aussi, si celle-là ne sait pas se maintenir, il y aura après la grossesse, il y a d'autres maladies, donc elles sont vraiment exposées. Nous dirons que la situation est vraiment déplorable. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous ne le faisons pas seuls. Nous sommes là comme porteurs d'un tendard. Mais ça doit être le combat de tout le monde.
De tout le monde. Oui. Donc on peut dire que Femina est beaucoup plus dans la sensibilisation.
Nous sommes dans la sensibilisation également. Mmh. Nous sommes dans l'accompagnement, dans la formation. Et voilà. Donc, comme Madame la PCA l'a dit, même dans renforcement de capacité, n'est-ce pas, de tous ces mondes-là, de tous ces environnements, cet environnement-là qui gère la jeune fille, qui gère l'adolescent, l'adolescente.
Bien. On a déjà quelques auditeurs en ligne, mais avant cela, Madame Yeyette, dites-nous, parlez-nous du projet que vous comptez lancer. Vous avez un vaste projet de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Pouvez-vous nous parler de ce projet?
Oui, merci beaucoup. En fait, ce projet que nous mettons en œuvre maintenant, nous l'avions soumis depuis le mois de septembre. Parce que initialement, nous avions voulu que nous puissions l'organiser pendant la campagne des 16 jours d'activisme, qui part du 25 novembre au 10 décembre. Mmh. Alors, il s'est fait que le temps que le projet soit approuvé, les 16 jours d'activisme étaient déjà passés. Mmh. Mais nous estimons que ce n'est pas perdu parce que la problématique des violences sexuelles et basées sur le genre est un problème que nous vivons au quotidien. Comme Monsieur Bienvenu vient de le dire, c'est tous les jours que les filles sont exposées. Mais il n'y a pas que les filles. Nous parlons des filles parce que nous sensibilisons dans les écoles, mais il y a des femmes qui sont harcelées au travail. Il y a des femmes qui sont au marché, qui pour avoir une marchandise, peut-être le grand le
monsieur. Ou à la boulangerie.
À la boulangerie, les femmes nous sont tout le temps exposées. Voilà. Elles sont toujours exposées. Donc ce sont les mêmes violences sexuelles, mais nous pensons que l'idéal pour nous, comme nous avons comme cible les élèves, les adolescentes, nous le faisons dans les écoles. Alors là, la campagne que nous allons mener, c'est dans le cadre de la protection des victimes, des violences sexuelles et celles basées sur le genre. Nous avons lancé une bande dessinée qui a été appuyée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH. Et donc là, nous sommes accompagnés par le ministère de la Santé au travers du Programme national de la santé de l'adolescent et de l'enseignement primaire, secondaire et technique, parce que nous sommes aussi partenaires de l'EPST. Mmh. Et donc là, nous évoluons ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons... tant soit peu, parce que dire que nous allons terminer ce problème, ça serait trop parler pour ne rien dire. Mmh. Mais en fait, ce que nous voulons, c'est que nous sommes en train de lancer la bande dessinée, une bande dessinée qui parle des violences sexuelles et basées sur le genre en milieu scolaire, que c'est un document qui, avec le temps, deviendra un matériel didactique qui va permettre aux filles et même aux garçons de savoir... que les violences existent, peut-être des fois ils le font sans le savoir, parce que parmi les facteurs, un des facteurs des violences, c'est aussi les aspects culturels. Un garçon pense qu'il est supérieur à la fille, simplement sur base de quoi, je ne sais pas. Et quand déjà dans sa tête il pense qu'il est supérieur à la fille, oui, il va se comporter de manière à la brimer, l'humilier. Mmh. Donc il est important que ce matériel soit distribué aussi bien aux filles et aux garçons dans les écoles pour les amener à comprendre que les violences ne sont pas bonnes. Parce que déjà au départ, dans le tout premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cela veut dire on n'a pas le droit de brimer, on n'a pas le droit d'humilier, on n'a pas le droit de stigmatiser, on n'a pas le droit de rabaisser et de faire du mal à l'autre, parce qu'on va à l'encontre du tout premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Bien, alors cette campagne ne concerne que les victimes de violences sexuelles?
En fait, pas seulement les victimes, parce que en fait, il y a aussi les victimes. Ce que nous vivons chaque jour, c'est quoi? Quand nous faisons des sensibilisations dans les écoles, mais après la sensibilisation, les jeunes filles, les adolescentes viennent vers nous pour nous dire « Madame, on a tel problème. Madame, on a tel problème. » Mon numéro WhatsApp de l'ONG est rempli de numéros des adolescentes qui nous font part des problèmes.
Elles subissent aussi des harcèlements de la part des enseignants, du directeur de l'école.
Beaucoup plus des enseignants. Mmh. Et quand des fois elles veulent en parler à la maison, ce qui est dommage, les parents ne croient pas. Mais quel sera l'impact si l'enfant se sent entre le marteau et l'enclume? D'abord, elle est victime, elle est harcelée à l'école et à la maison, on ne croit pas en ce qu'elle dit, mais il y aura un impact négatif sur ses études. Parce que comment est-ce qu'elle pourra se concentrer? Est-ce qu'elle aura encore envie d'aller à l'école? Parce que le harcèlement, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est tous les jours. Mmh. Et là, c'est des chantages. Mais il arrive également, quand je dis il y a les victimes, il y en a qui ont vécu ces cas, il y en a qui n'ont pas vécu. Mais pour celles qui ont vécu, qu'elles se disent... Comment est-ce qu'elle peut faire? Parce que dans l'histoire que nous racontons dans la bande dessinée, c'est une jeune fille que nous avons nommée Anaïs.
D'accord, je reviens à vous dans quelques instants. Bien. Ça semble déjà intéressant. Le temps d'accueillir les auditeurs. Monsieur Peter Maboudi nous appelle de Kinshasa et Justin Kalabia est en ligne depuis Bounia. Peter Maboudi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les gens de Radio Capi.
Bienvenue dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux violences sexuelles et celles basées sur le genre?
Oui, mais aujourd'hui, je suis très content. Et je voudrais circonscrire ce sujet sur trois d'aspects, dont l'aspect éducatif, comme les invités l'ont dit, l'aspect familial, également l'aspect sociétal. Je commence par l'éducation parce que moi-même je suis enseignant. C'est la réalité que nous vivons dans les écoles. Cela résulte de quoi, M. Jody? Parce que je reproche les élèves, j'ai eu le temps d'échanger avec les élèves. Depuis qu'il y a eu des réformes initiées par les régimes passés, créant, instituant les cours d'éducation à la vie, qui a été initié par une dame d'ailleurs, qui pensait que parler de l'adolescence, des sexualités à la jeune fille serait meilleur. Je pense que ce cours est venu vraiment mettre en déroute l'éducation de nos enfants. Je suis enseignant, je m'assume sur ça. Et j'ai eu même à écrire au ministère si c'est sans suite. Alors, la question principale par rapport à ce cours, c'est quoi? Nous, quand nous étudions, en morale, on nous apprenait que l'enseignant remplace le parent. Il y avait le respect que l'élève devrait avoir vis-à-vis des enseignants, le respect à l'école, le respect à l'église, tout ça. Nous avions appris ça. Mais pourquoi aujourd'hui on a écarté ce cours-là pour le remplacer par un autre cours? On ne sait plus les réformes qui ont été initiées. Donc, le problème majeur par rapport à madame, il faut que les démarches qui sont initiées puissent aboutir à des réformes en écartant certains cours qui sont alignés dans le programme qui ne reflètent pas notre réalité que nous avons dans notre
Peter,
pays.
Peter, vous si voulez dire que le cours d'éducation à la vie incite beaucoup de jeunes filles à la sexualité précoce?
Absolument, absolument. Parce que j'ai eu même à échanger avec certains de mes élèves, tu sais. Je devrais intervenir à la quatrième et troisième, c'était l'éducation à la vie. Et les enfants ont réclamé que l'enseignant de l'éducation continue. La deuxième fois, j'ai reproché maintenant les élèves pour savoir qu'est-ce qu'ils vous enseignent. Les enfants m'ont parlé. J'ai pris les filles de leur côté et les garçons de leur côté. J'ai eu l'échange avec les filles et l'échange avec les garçons. J'ai tiré conclusion et j'avais même proposé aux promoteurs qu'on devrait organiser des séances au niveau de l'école pour qu'on puisse encadrer les filles, comment elles doivent se comporter par rapport à la situation qu'elles vivent dans des écoles.
Mais est-ce que c'est le cours qui n'est pas bon ou c'est la manière de communiquer de l'enseignant, de transmettre qui pose problème?
Les matières qui sont mises dans ces cours ne sont pas adaptées au niveau des enfants. Donc quand le cours est déjà, commence déjà à partir de 7e, 8e, tout ça, qu'est-ce qu'on dit en 7e, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant en 8e et qu'est-ce qu'on dit à l'enfant en 3e jusqu'à arriver tout ça à la fin de l'année. Donc ce sont des matières qui ne sont pas adaptées au niveau des enfants. On avance déjà avec d'autres choses que les enfants déjà apprennent à connaître certaines choses que nous quand on grandissait on ne devrait pas les connaître si ce n'est que en arrivant en 6e qu'on devrait connaître déjà des choses. Donc ça anticipait à développer chez l'enfant une attitude à ne pas respecter certaines valeurs. Non.
Merci Peter, merci, on a compris votre préoccupation.
J'apporte la société sociétale, j'apporte la société sociétale.
Oui.
Aujourd'hui, si vous regardez sur la cité, comment les filles s'habillent, vous avez quelle impression? Entre les filles et les garçons, comment s'habillent les filles? Et au niveau même de nos familles, est-ce qu'on respecte nos valeurs, nos us et coutumes? Ce sont des questions qu'il fallait aborder par rapport à la question des violences, parce que c'est une situation que nous vivons dans la société et également dans tout le milieu que nous vivons. Donc, au niveau de la société, c'est par rapport à l'habillement des jeunes filles. Si vous voyez comment les filles, est-ce que les parents ont le contrôle sur leurs enfants par rapport à l'habillement, à leur comportement? Donc, c'est ça le plus grand problème. Si nous ne tirons pas attention, nous risquerons d'embraser la même chose comme nous le décrions aujourd'hui, M. Jody.
Merci. Merci, Peter. Justin Calabia de Bounia, bonjour.
Bonjour, M. Jody. Bonjour aussi à nos invités, sans oublier mon ami Peter Magouibi.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux violences sexuelles et celles basées sur le genre?
Merci, M. Jody, en tout cas, de m'avoir associé à cette émission. Oui, en tout cas, moi, je parle de l'irresponsabilité de notre gouvernement, parce que nous qui sommes ici à l'Est, il y a pas mal de violences basées sur le genre. Il y a des atrocités, alors qu'il y a une médiocrité, la pauvreté de la population est déplacée. Alors, lorsque quelqu'un manque quelque chose à mettre sous la dent, vous voyez, monsieur, je dis, qu'est-ce que ça peut donner? Mais quand monsieur Magouibi, Peter, est entré, en tout cas, de défendre sa thèse, en disant que, en tout cas, c'est dans les écoles, c'est là où il y a certains cours qui devraient être, en tout cas, écartés. Moi, je ne suis pas d'accord, monsieur, je dis, vous voyez, il y a la, pour nous ici en Afrique en général, et à RDC en particulier, parler de la sexualité, c'est un tabou, alors qu'on devrait montrer à l'enfant que non, parler de la sexualité, c'est normal. Donc, lorsque un enfant arrive à tel âge, voilà, il y aura une transformation, il y aura un changement sur son corps. Il y aura même des choses qui vont pousser sur son corps. Donc, ce n'est pas un tabou. Et lorsque un enfant parvient à aller découvrir la lui seul, vous voyez, M. Jody, ce sont des conséquences que nos enfants sont en train de, nous sommes en train de copier des modèles européens, des modèles américains, de nos enfants. Et puis, ce, que les, ce qui se passe dans des réseaux sociaux, ce qui se passe même dans des télés, et nous, nous sommes en train de pratiquer ça. Et nos enfants,
d'accord. Alors, quel est, pour terminer, quelle est la question que vous adressez aux invités?
Oui, la question que j'adresse à notre invité, oui, pourquoi notre gouvernement ne parvient pas à amener une grande campagne de sensibilisation à travers les écoles et dans les familles pour éradiquer de tels genres, ouais, de violences? Et pour terminer, pourquoi le gouvernement aussi, quand ça se passe, moi je suis beaucoup plus focalisé sur parce que je suis de la société civile, pourquoi le gouvernement, en tout cas, en soi, ce gouvernement de Warrior ici, ne parvient pas aussi, même si ce n'est pas encore sorti, ne parvient pas en tout cas à éradiquer la guerre, donc toutes les atrocités
qui sont merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci Justin de Bounia. Monsieur Bienvenu Yumbi, qu'est-ce que vous pouvez dire à des auditeurs?
Merci beaucoup, monsieur Jordi. Je voudrais d'abord dire un
merci
mot.
De vous rapprocher du micro.
Merci. Je voudrais d'abord dire un mot à monsieur Peter, parce qu'il a relevé ici trois aspects. Aspect éducatif, familial et sociétal. Il a, poussé, a envoyé, au fait, argumenté ses raisons et surtout des raisons orientées par rapport au cours de l'éducation à la vie qui, selon lui, serait à la base de dépravation de mœurs, si je peux dire
oui,
ainsi.
Oui, voilà. Est-ce voilà. qu'il a raison ou pas?
Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, déjà, monsieur Justin l'a dit. Nous, Africains, parfois, l'éducation sexuelle, voir un parent parler de la sexualité...
C'est un tabou.
C'est un tabou.
On n'en parle pas.
On n'en parle pas. Et on finit par regretter après. Mmh. On finit par regretter après. Il y aura, comment on dit, l'irréparable serait déjà commis et que voilà, une fille engrossée, une fille, un garçon qui tombe malade, voilà.
C'est, mais qu'est-ce c'est... que vous pensez de ces parents-là qui disent apprendre les enfants la sexualité, c'est comme si on les incitait déjà à avoir une vie sexuelle active?
Non, non, ce n'est pas ça. Le fait de mettre déjà, de présenter déjà ces dangers-là dans la tête des enfants, c'est mieux que de les laisser ignorants. Mmh. C'est mieux que de les laisser ignorants. On doit mettre aussi les enfants devant les responsabilités parce qu'ils grandissent. On doit amener à le mettre devant les responsabilités. C'est pourquoi nous, féminins, nous faisons également la promotion des valeurs. Quand on fait la promotion des valeurs, c'est-à-dire on amène les enfants à ne pas considérer l'inversion des valeurs. Aujourd'hui, quand on porte une mini-jupe, on trouve que c'est bien. Alors quand quelqu'un porte une jupe décente, on trouve que ce n'est pas bon. Donc il y a vraiment une inversion de valeurs que nous fustigeons dans Féminin. C'est pourquoi nous faisons cette promotion-là des valeurs. Donc, mais c'est juste, Peter doit tout simplement noter que on doit peut-être voir la manière de communiquer, de faire passer ce message dans les cours.
Et à partir de quelle classe on doit commencer à parler?
Oui, à partir de quelle classe
de la sexualité.
Oui, bon, nous ne copions pas les Européens. Parfois, ils débordent, mais ils parlent de la sexualité dans la famille. Et il y a aussi, même pas pour parler des Européens, des Africains, Congolais, Bantous, qui parlent de la sexualité dans la famille. Donc, c'est aussi amener les parents à prendre à bras les corps les responsabilités dans l'éducation. Vous savez, il y a l'éducation au niveau de la famille, il y a les éducations diffuses aujourd'hui.
Internet, réseaux sociaux,
voilà. Les téléphones, ça prend de l'ampleur. Si vous n'en parlez pas à votre enfant, vous pensez que vous êtes en train de le protéger. Mais quand il sera avec ses amis dans le téléphone, vous ne contrôlez pas leur téléphone. Vous ne contrôlez pas, il se connecte dans quel site, il regarde.
Qu'est-ce qu'il regarde, tout
vous,
ça.
Vous ne maîtrisez pas tout ça. Autant en parler en famille et les amener, les interpeller à adopter un comportement des responsabilités, d'être responsable, parce qu'il grandit, que de les laisser comme des ignorants.
Mais si celui qui donne le cours d'éducation à la vie est un pervers, un enseignant pervers,
oui,
il peut inciter les enfants à des mauvaises choses.
Justement.
Bien, Madame Yeyette.
Alors moi, j'estime que le premier monsieur, Peter. Pourquoi le gouvernement ne mène pas des grandes campagnes? Mais aujourd'hui, le gouvernement est composée de différents ministères. J'ai dit ici que Femina est accompagnée par le ministère de la Santé et par le ministère de l'EPST. Mmh. Cela veut simplement dire que comme nous, nous travaillons avec les adolescents et les jeunes, nous travaillons avec le PNSA, le Programme National de la Santé de l'Adolescent, et le ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, qui a toute une direction qui s'occupe de l'éducation à la vie courante. Aujourd'hui, parmi les stratégies, il y a une stratégie que nous appelons la stratégie de la père-éducation. C'est une stratégie qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. La stratégie de la père-éducation veut dire quoi? Au sein de Femina, ce n'est pas moi qui sensibilise les enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. Nous avons des pères éducateurs que nous avons formés. Parce qu'il y a certaines réalités que moi, en tant que mère, j'ignore, alors que les enfants de 12 ans ont leur code, ont leur réalité que nous ignorons toujours.
Bien sûr.
Alors, ça fait que les pères éducateurs peuvent aisément transmettre un message à leur père. Donc, un enfant de 12 ans, un garçon de 12 ans, parle facilement aux autres garçons de 12 ans. Une fille de 12 ans parle aisément une fille aux autres filles de 12 ans et le message va passer. Mmh. Alors, mais aujourd'hui, il y a comme une autre stratégie qui est mise en place et qui est encadrée par le PNSA, le Programme de la Santé de l'Adolescent et l'EPST, c'est la stratégie des pères, des parents-pères. Parce que aujourd'hui, Monsieur Peter a soulevé un problème et Monsieur Bienvenu également qui en a parlé. Mmh. Tant que nous ne parlons pas de la sexualité à nos enfants, ils l'apprennent dans la rue et avec tous les dangers. Voilà, l'éducation diffuse. Mais pourtant, si aujourd'hui les parents, nous prenons la peine de parler à nos enfants, quand nous parlons aux enfants de la Bible, quand même, on se met dans une attitude très sérieuse. Mmh. Alors pourquoi s'il s'agit de parler de la sexualité des enfants, on parlerait vulgairement? Non, il faut vraiment prendre la chose avec tout le sérieux pour que les enfants comprennent qu'en allant dans la rue, ils doivent être prudents, ils doivent faire attention.
Attention.
Et aujourd'hui, comme j'étais en train de dire, la stratégie des parents-pères, ce sont des parents qui forment les autres parents à apprendre à parler de la sexualité à leurs enfants. Ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons arriver à briser la glace et briser les tabous autour de la sexualité.
Bien, alors on va accueillir un autre auditeur, Jérémy Mwamba, depuis Lubumbashi. Bonjour. Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi et nous avons également en ligne Maître Olimwengu Joseph. Jérémy, bonjour. Oui, on vous écoute.
Ah oui. Je voudrais que vous puissiez un peu nous récapituler le sujet, hein.
Oui, on parle de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, à l'égard de la jeune fille particulièrement.
Ça, c'est devenu une monnaie courante. Alors, vous savez, le point focal hein, dans la société, c'est juste la famille. Quand vous regardez aujourd'hui, comment est-ce que les parents sont en train de fuir leurs responsabilités, et c'est ce qui crée aujourd'hui des situations dans la société. Quand vous êtes ici, vous arrivez ici à Lubumbashi, au niveau du tunnel, vous allez trouver vraiment un nombre des enfants qui sont sur la rue. Et moi, je me pose la question, où est l'État pour en ce moment-là? Parce que l'État est là, la famille est là, il fallait punir sévèrement les parents qui laissent leurs enfants comme ça. Vous trouvez les jeunes filles en train de monter à la longueur de la journée, ils montent et descendent. Mais quand vous suivez de plus près, il y a des parents de ces enfants-là qui sont toujours tout aux alentours-là. Mais là, l'État ne fait absolument rien. Ça constitue aussi une bombe à retardement pour la société congolaise. C'est le moment de prendre des dispositions pour enfreindre cet élan qui prend vraiment de tourner les inquiétudes. Si on n'y prend pas garde, nous risquons plus tard d'avoir... On ne saurait pas comment sortir et marcher. Parce que ces jeunes filles, pour les regarder aujourd'hui, ils sont vraiment... Les autres sont utilisés pour des fins vraiment non élucidées qui créent beaucoup de frustration. Vous regardez des petits-enfants, vraiment... Je dis, mais où est la responsabilité de ça? Il faut vraiment qu'on puisse maintenant organiser peut-être un atelier où on parle directement aux parents. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de prendre en charge la jeune fille pour la scolariser, carrément, il faut chercher et être palliatif, soit l'amener à un centre où elle sera peut-être utilisée pour des fins telles que de la couture, etc., parce qu'elle sera utile pour la société.
Merci, Jérémy. Merci beaucoup, Jérémy de Lubumbashi. Maître Joseph Ulimwengu de Bukavu, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute, maître.
Bon, merci beaucoup. Je viens de suivre les interventions de part et d'autre et je les apprécie trop, c'est trop pertinent. Alors moi, quant à moi, je ne peux pas dire le contraire presque de ce qu'on dit, mais je voulais centrer ma contribution autour de la sensibilisation. Vous savez, les viols et les violences sexuelles basées sur le genre, c'est devenu une monnaie courante, comme le prédécesseur vient de le dire, mais nous ne pouvons pas croiser les bras ou nous ne pouvons pas cesser à le dire et à le répéter. Alors, premièrement, la sensibilisation devrait être trop meilleure et entendue, étant donné que il y a bon nombre de gens, surtout nos filles, qui ne savent pas que tel acte ou tel autre peut constituer violence ou viol et c'est répréhensible par la loi. Ça d'abord c'est un. Deuxièmement, l'information. Donc les parents, les organisations de la société civile, les ONG, donc toutes les parties prenantes, même le gouvernement, devraient organiser des séances d'information, des ateliers. On devrait diffuser pour que d'abord la personne ait la connaissance de ces actes-là comme étant violence basée sur les genres ou violence sexuelle. Ça, c'est un. Deuxièmement, la loi aussi. Chez nous, dans le code pénal, le viol est incriminé comme infraction. Nous avons la loi de 2006 qui a corrigé, qui a repris un certain nombre d'actes constituant le viol. Alors, il y a des gens qui ne... Le viol et les violences sexuelles, voulais-je dire. Il y a des gens qui ne connaissent pas cela. Bon nombre de bourreaux, des auteurs ne connaissent pas l'or.
Maître, quelle est la question que vous adressez aux invités rapidement? Quelle est la question que vous adressez aux invités?
La population puisse bien. Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Allô? Ah oui, oui, pour que la population puisse connaître que ces actes-là sont répréhensibles. Parce que vous savez que la loi aussi a un caractère coercitif. Lorsque vous savez en amont que ceci est érigé en infraction, et la peine est prévue, vous pouvez avoir quelque part cette crainte-là de commettre cet acte-là. Ça, c'est des deux. Troisièmement, il y a du point de vue des victimes de cette violence-là. Comment est-ce que nous les traitons? Est-ce qu'ils sont pris en charge médicalement? Parce que nous sommes en conseil. Souvent, on entre dans un dossier où on vous dit que celui-ci a été violé. Mais quand vous demandez s'il y a eu d'abord un examen médical, voici ceci et cela, non, cela n'a pas été fait. Alors, est-ce que ces victimes-là reçoivent un accompagnement soit médical, psychologique, social, efficace. Donc, ce sont là des questions très pertinentes qu'on pouvait se poser. La sensibilisation, la loi, la vulgarisation de la loi, ainsi que même la prise en charge des victimes. Avec ces trois-là, devrait vraiment amoindrir ou diminuer le coût de ces violences-là, sexuelles, peut-être basées sur le genre. Merci.
Merci, Maître Oulimwengu, depuis la ville de Bukavu. Nous parlons aujourd'hui de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Madame Yeyette, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Oui, en fait, pour le dernier auditeur, il a totalement raison. Il a totalement raison dans la mesure où aujourd'hui, la connaissance devrait prendre le dessus sur tout. On ne devrait pas se lasser de parler. C'est comme à la maison, on parle, on doit parler aux enfants, leur expliquer telle chose. Mais on doit le faire régulièrement. Mais je pense que les enfants, de leur côté, on devrait également les écouter. Parce que des fois, on a toujours tendance à parler aux enfants, mais on ne les écoute pas en retour. Mmh. Quels sont leurs problèmes? Qu'est-ce qu'ils rencontrent quand il est revenu de l'école? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Ça peut arriver. Qu'en posant la question à l'enfant, ils te disent « Oui, maman ou papa, quand je rentrais, il y a un yaya quand je passais qui m'a touché à la poitrine, ou il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Est-ce que tu connais son visage?
Il m'a tapoté derrière.
Il m'a tapoté le derrière. Mmh. Voilà. Et il faut que les parents, quand les enfants viennent nous dire pareille chose, il faut qu'on croie, parce que l'enfant n'a pas intérêt à mentir. Mmh. Parce que si aujourd'hui, on passe l'éponge ou on refuse, on dit « Tais-toi, tu ne peux pas parler de ce genre de choses et tout ça. » L'enfant sera brimé. Et il se dira le jour où on viendra lui dire « Tu sais, pour avoir des relations sexuelles, tu sais que c'est bien, il faut faire ci, il faut faire ça. » Là, elle va aller.
Oui, les enfants se racontent des choses à l'école, voilà. Surtout au lycée, là.
Voilà. Mmh. Mais quand déjà, au niveau de la famille, on a parlé de la sexualité, on dit aux enfants, tu vois, maintenant, tu as tes règles, le corps, tu es en train de subir certaines transformations, tu as des poils à l'aisselle, tu as des poils sur le pubien, tu as déjà la poitrine, le garçon, tu vois, il y a peut-être des petites barbes, ta voix est en train de changer. Ça veut dire que si tu as des relations sexuelles,
tu peux tomber grosse.
Tu peux tomber enceinte ou tu peux engrosser. Tu vas devenir papa. Mmh. Mais est-ce que tu as l'argent pour prendre en charge cet enfant-là? Est-ce que toi, tu vas abandonner tes études parce que tu dois devenir maman? Il faut montrer le danger aux enfants. Et quand l'information diffuse viendra, elle sera avec ses copines ou il sera avec ses copains, quand ils seront en train de parler, l'enfant va dire, nous à la maison on avait parlé, maman nous avait dit, papa nous avait dit. C'est un peu comme les enfants quand ils vont à l'école, même à la maternelle. Non, il faut va manger. Madame avait dit d'abord avant de manger, il faut laver les mains. C'est très important. Et quand au niveau de la famille, les enfants arrivent à intérioriser ces messages, vous allez parler de la sexualité aux enfants, ça sera sans danger en fait. Parce que tu ne peux pas dire laisser l'enfant aller toucher une prise pour lui dire non, le courant... Non, c'est dangereux. Et tant qu'il y a danger, il faut en parler.
Il faut en parler. Alors dites-nous, c'est quoi l'histoire que vous racontez dans votre bande dessinée?
Alors, la petite adolescente qui est en fait comme l'actrice principale, on l'a nommée Anaïs, elle vit avec sa mère, elles sont dans un foyer monoparental et on comprend, tout à l'heure il y a un auditeur, je crois que c'est celui de Lubumbashi qui disait même si la vie elle est difficile, mais on doit quand même, les parents doivent arriver à encadrer les enfants. Alors c'est une maman qui élève sa fille seule et sûrement avec la cherté de la vie, les difficultés de la vie. Elle n'a pas toujours été tendre avec sa fille. Elle est vraiment très agressive, nerveuse. Elle bat même sa fille et tout. Et Anaïs, elle aide sa maman tant qu'elle peut. Elle le fait et puis elle va à l'école. Et un beau jour, au sortir des cours, il y a un des garçons du quartier qui est dans la même école qu'elle qui lui demande, tiens Anaïs, est-ce que tu peux m'accompagner chez un ami? En principe, un enfant à qui parle avec ses parents, devait d'abord dire, on arrive d'abord à la maison, j'en parle à maman. Mais elle dit, ok, il n'y a pas de problème, mais on ne traîne pas. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils arrivent chez le monsieur, chez l'ami du garçon, ils ont passé du bon temps et tout, ils ont pris du whisky, ils ont pris de l'alcool. Il y a eu une première fois, il y a eu une deuxième fois, et c'est à la troisième fois, quand Anaïs s'est levée pour aller à la toilette, qu'ils ont mis...
Ils ont glissé quelque chose
dans son verre. Et ça l'a endormie. Et quand elle s'est endormie, ils ont profité les deux pour la violer. Donc, en fait, c'est un des problèmes également auxquels les adolescents et les jeunes sont confrontés. La consommation de l'alcool. Aujourd'hui, on peut regarder les bars, les terrasses de Kinshasa.
C'est rempli des jeunes gens, des adolescents.
Des adolescents et des jeunes. Heureusement aussi aujourd'hui que le gouvernement, j'espère quand même que ça marche, même quand la police dit quand il y a publication des résultats des examens d'État, qu'on ne veut pas voir les adolescents dans les bars. Parce que, en fait, c'est un des réels problèmes. Parce que, avec l'alcool, la sexualité, ils ne se rendront même pas compte qu'ils ont peut-être eu des relations sexuelles. Parce qu'ils sont sous l'effet de l'alcool.
Sous l'effet de l'alcool.
Voilà. Alors, elle a été victime de viol et n'a pas pu en parler à sa maman parce que déjà avec sa maman, c'est chien et chat. Elle n'en a pas parlé à sa maman. Et puis, il y a eu des conséquences. Elle n'a pas pu... Elle avait perdu tout enthousiasme à l'école. Elle avait maigri. Elle ne parlait plus. Elle ne mangeait plus. Et puis, bon, ce temps-là est passé. Elle a repris sa vie. Et un beau jour, elle est sortie avec ses amis. Ils sont allés à une fête. Et pendant qu'ils rentraient, ils sont tombés dans une embuscade des Koulouna. Les garçons ont été tabassés, les téléphones ont été volés et les filles ont été violées, malheureusement. Donc pour Anaïs, ça faisait la deuxième fois. Et les filles n'ont pas voulu en parler parce qu'elles se disaient, il ne faut vraiment pas que les parents le sachent.
Silence.
Mais heureusement que la police a eu écho de cette histoire-là. La police est arrivée. Ils sont arrivés jusque chez la maman d'Anaïs pour demander, voilà, nous avons eu information que votre fille a été victime de Koulouna et consort. Et la police a demandé à Anaïs et à ses autres copines de venir au poste de police, d'aller au poste de police pour identifier les agresseurs, leurs bourreaux. Ils ont identifié les agresseurs. Les agresseurs ont été jugés et condamnés à la peine qui les attendait. Alors les filles, entre-temps, la police a demandé aux filles, vous devez aller quand même vous faire examiner, même si, idéalement, c'était avant le troisième jour que le viol a eu lieu, avant le troisième jour, avant 72 heures, pour pouvoir bénéficier de la prise en charge du kit PEP. Mais malheureusement, l'activité ou disons le viol s'est déroulé, disons la visite à l'hôpital,
est
arrivée après les trois jours, plusieurs jours après. Donc malheureusement pour Anaïs, elle a été diagnostiquée séropositive, elle était tombée enceinte. Mais c'est quand même une situation qui a été très dure, mais avec sa maman, toute cette hargne qu'elle avait pour sa fille était tombée en fait. Elle a accompagné sa fille. elle a accompagné sa fille. Et Anaïs, tout au début, elle voulait être avocate. Et ça, c'est là. Ce n'est que la première partie de l'histoire. Il y a une
deuxième partie qui est la suite. Comment, monsieur, bienvenue, dites-nous, comment vous comptez, disons, vulgariser cette bande dessinée, qu'elle se retrouve dans toutes les... Qu'elle vise, quel est le public cible? J'imagine que ce sont les élèves. Et comment vous comptez faire la distribution à travers les écoles à Kinshasa et à travers le pays?
Voilà. Fébina travaille en collaboration avec les institutions nationales et les institutions internationales, également avec les gouvernements. Alors, si déjà nous bénéficions de l'accompagnement du ministère de l'enseignement, donc c'est vraiment pour vulgariser cet outil, parce que Mama PCA, Mama Yet l'a dit ici, c'est un outil didactique. Alors, pour vulgariser cela et réveiller un peu la conscience des adolescents en général, également des parents, parce que voyez, la bande dessinée n'interpelle pas seulement les adolescents, mais également les responsables de ces adolescents là à tous les niveaux. Si la maman avait au moins une oreille attentive, n'est-ce pas, Anaïs, déjà la première fois, elle n'aurait pas eu peur. Elle en parlerait à sa maman. Parce que surtout que elle n'était qu'à deux, elle et sa maman. Donc, dans une situation comme ça, la maman pouvait se faire beaucoup plus l'ami de sa fille pour ne pas mettre en ruine ou ne pas mettre un blocage dans la transmission de certaines informations. Donc, cela interpelle non seulement les adolescents, mais également les parents qui doivent prendre à main les responsabilités d'éducation. Surtout pas d'abandonner seulement à l'école, n'abandonnez pas seulement l'éducation au pasteur, l'éducation des bases, c'est à la maison.
C'est à la maison. Madame Yeyet Elonga, alors la campagne de protection des victimes des violences va durer combien de temps et elle va toucher combien de villes à travers la République?
Bon, pour l'instant, nous allons travailler à Kinshasa. Le projet vise les 4 districts de la ville de Kinshasa. Et donc, nous allons distribuer. Donc, après le lancement, nous irons dans les écoles. Nous allons faire des sensibilisations et distribuer la bande dessinée.
Donc, elle n'est pas à vendre. Vous allez la distribuer.
Elle est à distribuer. À distribuer. Voilà. Parce que nous avons été appuyés par le BCNUDH, donc nous allons distribuer la bande dessinée.
Et vous pensez que c'est un moyen efficace de sensibilisation?
C'est un moyen efficace parce que j'étais en train de me dire le matin quand on en parlait, c'est vrai, quand nous faisons des sensibilisations, il y a des petites qui prennent des notes, les élèves prennent des notes et tout, mais des fois, ils peuvent les perdre. Mais alors qu'avec une bande dessinée, ils la gardent quand même assez jalousement. Ils veulent la lire, se la prêter comme on faisait à l'époque à l'école. Quand on a une bande dessinée, on se la prêtait sous les bancs et tout. Mais la différence qu'il y aura, c'est que cette bande dessinée ne sera pas prêtée sous les bancs. Ça sera vraiment remis officiellement parce que c'est un matériel didactique. Donc c'est un matériel didactique et avec l'appui de l'EPST, il sera traduit dans les différentes langues nationales pour être distribué sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Est-ce qu'il y aura aussi une version en ligne?
Idéalement, et même nous voyons aussi la possibilité dans les jours à venir, voir comment transformer la bande dessinée en dessin animé et pour mieux toucher les jeunes. Et ça passe beaucoup plus facilement dans les téléphones que sur le papier.
Le papier. Bien, on va accueillir deux autres auditeurs. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani et François Okunji à Tshikapa. Blaise, bonjour. Blaise Saïdi de Kisangani, bonjour, il n'est plus là. François Okunji de Tshikapa, bonjour.
Bonjour Radio Kapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi à travers le monde.
Quelle est votre question, François?
Oui, moi je voudrais demander seulement à votre invité par rapport à la protection de l'enfant en RDC. C'est comme à Tshikapa, nous sommes dans la province du Kasaï, une province diamantifère où l'exploitation du diamant est d'une manière artisanale. Et beaucoup de mineurs se plongent dans cette exploitation à Kamako, à Mutima, Kamabanji, partout ailleurs, à Louébo. Quels sont les mécanismes que qu'on peut nous donner? Quels sont les mécanismes pour éradiquer cette crise des enfants mineurs qui se plongent dans l'exploitation artisanale du diamant au lieu de se donner aux études qui pourront faire des meilleurs dirigeants de ce pays.
Bien, merci, monsieur, bienvenue.
Voilà, j'ai suivi la question. Quand bien même que cette question n'est pas vraiment dans l'optique de notre objectif, mais du moins, étant responsable, parent, je ne peux pas quand même tolérer à ce qu'il y ait un enfant qui abandonne l'école, surtout quand ces moyens-là pour le scolariser sont là et aller se retrouver dans le puits des minéraux. Alors on doit interpeller non seulement le responsable au niveau des districts de l'environnement auquel ces matières-là sont exploitées, parce que les responsables sont là. Les enfants n'y vont pas quand même la nuit pendant que les responsables sont en train de dormir. C'est aux yeux et au su de tout le monde. Alors pourquoi on doit tolérer cela? Donc déjà, ça doit être parlé, cette histoire-là doit se parler, les solutions doivent s'envisager déjà au niveau local. Parce que je suis sûr qu'il y a des responsabilités, des responsables municipaux, il y a des responsables provinciaux, etc., avant d'arriver au sommet, parce qu'il parle de l'intérieur. Il y a des responsables à ce niveau-là.
Et généralement, dans les mines, il y a beaucoup de jeunes filles aussi, à cause de la pauvreté, qui suivent les miniers parce qu'ils ont de l'argent, et ces gens abusent d'elles.
Exactement. Si vous suivez, vous posez la question... Pourquoi ces enfants-là se rendent dans de terrains, dans des sites miniers? C'est toujours d'abord le problème de la pauvreté. Oui. Les parents sont pratiquement entre guillemets irresponsables. Ils savent pas prendre en charge leurs enfants. Et les enfants, c'est eux maintenant, c'est l'inverse. Les enfants qui, quand ils sortent, ils reviennent avec quelque chose que les parents se contentent aussi de recevoir. Donc, ils sont face, ils profitent en fait de l'inefficacité de parents à les prendre en charge. Ouais. C'est aussi la responsabilité de notre gouvernement de pouvoir apporter des solutions. Et quand on parle de la création d'emplois, etc., et ça va suivre, ils vont envoyer les enfants aussi à l'école, surtout que on parle de la gratuité. Quand on parle de la gratuité de l'école primaire aujourd'hui et qu'un enfant refuse, il va avancer quelle raison? Parce qu'il va pas payer. D'accord. Il y a toujours la pauvreté qui bat. Oui, voilà.
Tout à fait. On va accueillir Monsieur Saïd de Kisangani. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Voilà. Je voulais m'intéresser concernant le prédécesseur. Donc, ce sont des arguments trop pertinents, mais nous devons toujours ajouter quelques choses. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a un problème sérieux à ce qui concerne l'exploitation des filles. Tout ça, ça dépend d'abord les moyens que les parents possèdent et aussi l'éducation. Puisque s'il y a les moyens, quelque part, ça va aider une bonne éducation de nos filles. D'une part, et d'autre part, s'il n'y a pas les moyens, les filles peuvent faire n'importe quoi. Et ils seront vités à des actes qui ne conviennent pas. Donc, elles seront en train de se retrouver par-ci, par-là, dans des boîtes de nuit, ainsi de suite, et là, c'est pour chercher quelque chose à manger. Pourquoi? Puisque les parents n'ont rien. Donc, imaginez les salaires que les fonctionnaires touchent, et les salaires qui n'arrivent même pas un bout de mois, c'est un problème. Donc tout D'accord. ça, c'est toujours une charge aux parents. Et au regard de ça, ça va nécessiter à ce qu'il y ait la DMA, et puis de suite. Donc aussi, pour nous, parents, nous sommes obligés aussi de chercher à regarder nos charges, puisque on ne doit pas tout simplement...
D'accord, merci. Merci, Monsieur Saïdi. On a compris votre préoccupation, la pauvreté des parents. Voilà, c'est ça qui touche les jeunes filles aussi à une vie sexuelle active, etc. Madame Yeyette, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Oui, la pauvreté. La pauvreté est un des facteurs, des causes des violences fondées sur le genre. Généralement, une personne... le problème de la pauvreté frappe beaucoup plus la femme. elle est dans le dénuement, elle est dans le manque, elle ne peut même pas, aujourd'hui, si elle est victime de viol, elle n'a même pas les moyens, parce que déjà, elle se sait pauvre, elle ne pourra même pas aller voir, demander de l'aide au niveau de la justice, parce qu'elle va se dire, ça coûte cher, je n'aurai pas les moyens. Or, aujourd'hui, dans le cadre de la sensibilisation, comme un des auditeurs l'avait dit, il est très important de le dire, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, il existe des cliniques juridiques. Les cliniques juridiques prennent totalement en charge la victime.
Gratuitement.
Oui, sur le plan judiciaire comment on appelle ? Le plan juridique et judiciaire. Mmh. Donc, elles accompagnent la victime, d'abord à dénoncer le bourreau, l'accompagnent à dénoncer le bourreau, la clinique va faire en sorte que le bourreau soit arrêté, qu'il soit jugé et condamné.
Mais le problème, c'est que les filles qui se font, qui sont abusées, n'en parlent pas, elles préfèrent garder le silence.
Elles préfèrent garder le silence parce qu'aujourd'hui, elles ont peur d'être stigmatisées. Parce qu'une victime, aujourd'hui, elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Parce que je me dis toujours, les gens disent oui, c'est parce qu'elle s'était mal habillée, parce qu'elle fait ci. Qu'est-ce qu'on appelle le mauvais habillement ? Parce que dans le temps, à l'époque, quand il y avait nos ancêtres, on n'avait pas les tenues que nous avions aujourd'hui. Les femmes, qu'est-ce qu'elles avaient ? Juste un cache-sexe. La poitrine était dehors. Mmh. Mais est-ce qu'il y avait des cas de viol ?
Alors si, par exemple, c'est son père ou c'est son tuteur, son pasteur...
Et là, c'est encore beaucoup plus grave. Parce que là, c'est carrément un pervers. On va le dire ainsi. Moi, j'ai connu un cas où un monsieur a perdu sa femme, il est resté vivre avec ses filles, ses sœurs, donc les tantes des filles ont demandé à leur frère, nous voulons t'aider, tu n'as que des filles que nous les prenions, qu'on va les élever. Le monsieur a refusé. Mais au bout de 6 mois, ce sont les voisines qui sont allées vers les tantes pour dire, il y a une de vos nièces là-bas qui n'est plus bien en fait. On a remarqué qu'elle doit être enceinte. Effectivement, la tante est venue, elle est venue chez son frère, elle a fait semblant comme si on ne lui avait rien dit, juste comme une visite et tout. Elle a commencé à regarder les enfants et puis elle a remarqué qu'il y avait une, effectivement, qui n'était plus comme elle était avant. Mmh. Elle a demandé à son frère, je prends un peu la petite, qu'elle m'accompagne faire une course. Ils sont allés passer des examens. La petite était enceinte de 7 mois.
Et qui l'avait engrossée ?
Son père.
Oh là là.
Donc la clinique juridique a tout fait. On a arrêté le papa. Et malheureusement, le jour de son jugement, le gars s'est pendu.
Il s'est pendu. Pourquoi ? La honte, il pouvait pas...
Il savait ce qu'il attendait.
Ouais.
Il savait ce qu'il attendait parce qu'on lui a dit que, d'abord en tant que père de l'enfant, je me dis que la peine devrait être quand même assez dure.
Oui, bien
donc,
évidemment.
Vous voyez, donc c'est en fait ça. Il faut vraiment en parler. Il faut qu'on en parle et que les gens sachent, la sensibilisation, que les gens sachent. C'est pas pour rien que même dans la bande dessinée, on a fait allusion à la clinique juridique. Il y a une clinique juridique qui a reçu toutes les filles qui ont été violées, Anaïs et ses copines, elles ont été reçues à la clinique juridique et on les a accompagnées. C'est comme ça que leurs bourreaux ont été arrêtés.
Bien, monsieur, bienvenue. Les personnes qui sont intéressées, qui voudraient entrer en contact avec votre structure, Femina Asbel, comment procéder ?
Voilà, nous avons un numéro de contact. Mmh. Ils n'ont qu'à appeler sur 084-84-30-113. Mmh. Je réponds 084-84-30-113. C'est un numéro WhatsApp. C'est vraiment le numéro de la structure. Okay. Et ils pourront poser toutes les questions possibles. Et nous avons également besoin de l'accompagnement. Parce que les parents, les gouvernements, les institutions nationales, les institutions internationales doivent nous aider. C'est vrai, nous ne pouvons pas... un bâton magique éradiquer la violence sexuelle basée sur les genres, mais du moins nous pouvons faire de manière à ce qu'il y ait quand même des résultats et d'accord. que les gens, les filles, les jeunes garçons, les adolescents prennent de plus en plus conscience
du fait. Voilà. Bien, merci beaucoup monsieur, bienvenue Yumbi, vous êtes le cofondateur de l'Asbel, Femina Asbel, et nous disons merci à madame Yeye Telunga, initiatrice et président PCA de Femina Asbel. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à vous dire merci et à la prochaine.
Merci à Radio Capi.
Merci.
Merci. Oh, Capi.